سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mes très chers sœurs, d'après un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man su'ila an ilmin fakatama uljima yawm al-qiyamati bilijami min nar. Celui qui a été interrogé sur une science et l'a caché, il sera doté un jour de la résurrection d'une bride de feu. Et d'après le verset coranique, qui dit: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Certes, ce qui cache ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Mes très chers sœurs, d'après ce hadith et ce verset coranique, et sachant que j'ai choisi le chemin de la science islamique, j'ai compris qu'il était un devoir pour moi de faire un discours concernant la femme. Et surtout, je précise, la femme dans l'islam. J'ai décidé de faire ce discours et de l'adresser à toutes sœurs musulmanes, toutes sœurs qui possèdent ne serait-ce qu'un atome de foi, à toute sœur qui recherche après le chemin de la rectitude. Et j'ai la forte certitude qu'il y a beaucoup de bien chez ces sœurs. Mais le problème qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'elles ne trouvent personne pour les orienter vers le droit chemin, personne pour les conseiller, personne pour leur montrer le mensonge de la vérité. Tout le monde s'occupe de leurs problèmes. Les parents ont le problème du travail, les frères ont d'autres problèmes. Chacun pose de ses problèmes et on laisse les sœurs sans rien. Donc, et c'est pour ça que je leur adresse ce discours, tout en espérant qu'avec ces paroles, elles pourront retourner vers Allah. Elles pourront retourner vers la religion, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ad-dinu an-nasiha, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. La religion, c'est le bon conseil, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandâmes vis-à-vis de qui? Il dit: vis-à-vis de Dieu, de son livre, de son messager, des guides des musulmans et de leurs simples citoyens. Maintenant, le discours sera basé sur 5 parties essentielles. Je vais essayer de développer et d'expliquer chaque partie. En première partie, je parlerai de l'importance de la femme dans la société. En deuxième partie, je parlerai de la femme avant l'islam, chez les Arabes et chez différentes civilisations. En troisième partie, je parlerai de la femme après l'islam. En quatrième partie, comment la femme doit sauvegarder sa dignité et son honneur. Et en cinquième point, et c'est le dernier, l'importance du mariage. Ma sœur, comme dit un écrivain arabe, إن قضية المرأة هي قضية كل مجتمع في القديم والحديث. Le sujet de la femme, dit cet écrivain, le sujet de la femme est le sujet de toute société contemporaine et ancienne. وأجمل ما في المجتمع من حيث العواطف. Et le sujet de la femme, c'est ce qui est le plus beau sentimentalement parlant. وأعقد ما في المجتمع من حيث المشكلات. Et c'est aussi le sujet qui est le plus complexe dans la société au niveau des problèmes. ومن ثم كان من واجب المفكرين أن يفكروا في قضيتها دائما على أنها قضية المجتمع أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها على أنها قضية جنس متمم أو مبهج. Et il dit, et de là était le devoir des intellectuels de réfléchir au cas de la femme et de le considérer plus comme un cas concernant la société qu'un cas concernant le plaisir et la passion. Ma très chère sœur, on sait tous que la société ne peut se former qu'avec deux éléments essentiels, qui sont l'homme et la femme. Et c'est pour cela que la femme représente la moitié de la société, et l'homme représente l'autre moitié. La femme est la compagne de l'homme, et ainsi pour l'homme, l'homme aussi est la compagne de la femme. Et il n'est impossible que la race humaine se reproduise sans la femme et l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un de ses versets coraniques, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قرآن créez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, c'est-à-dire Adam, et créé à elle, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et ici dans un autre verset, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Ma sœur, ces versets font preuve que la femme occupe une grande place dans la société, qu'elle représente un pilier important sur lequel se repose la société. La femme et celle qui tient la clé de la réussite. Si la femme se dégrade et va à sa perte, elle entraîne ainsi la société. Mais malgré toute l'importance qu'elle représente, malgré le grand rôle qu'elle tient, malgré tous ses bienfaits, on trouve dans l'histoire des civilisations anciennes et chez certains intellectuels et philosophes, on remarque chez eux de mauvais propos tenus à l'égard de la femme. Des propos qui font baisser de sa valeur et qui lui donnent une mauvaise image. Et comme dit le très connu philosophe grec Socrate, l'existence de la femme est comme, dit-il, l'existence de la femme est la source première de la crise et de la détérioration de le monde. La femme ressemble, dit-il, à un arbre empoisonné. Son apparence est belle, mais quand les oiseaux mangent de ses fruits, ils en meurent pour le coup. On trouve que dans la civilisation grecque, la femme n'avait aucune valeur. Elle était traitée avec mépris. Certains l'ont surnommée œuvre du diable. Elle était vendue et achetée comme une marchandise. Elle était dépouillée de tous ses droits. Dans la civilisation romaine, il est dit que si la jeune fille avait hérité de sa mère de l'argent, il était interdit pour elle de garder cet argent-là. Mais elle devait le remettre à son père. Pourquoi ? Tout simplement parce que la jeune fille chez eux n'avait pas le droit de posséder de l'argent. Il est dit que certains hommes, chez les Romains, certains hommes faisaient subir différentes tortures aux femmes, telles que verser de l'huile bouillante sur son corps, d'autres étaient attachés à un cheval et se faisaient traîner jusqu'à la mort. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une faible créature. Une faible créature qui ne peut pas se défendre. Donc, on pouvait se permettre de tout lui faire subir. Dans la civilisation chinoise, le Chinois possédait le droit de vendre sa femme pour n'importe quelle somme d'argent. Et si la femme avait à devenir veuve, il n'était pas possible pour elle de vivre seule, d'être indépendante d'elle-même. Mais elle était obligée, je dis, elle était obligée de vivre ou bien avec son frère, ou bien son père. Et si, comme je dis, le mari avait à mourir, et elle n'avait ni père ni frère, elle devait aller chez un des proches du mari. Il n'était pas question pour elle de vivre seule. Et un exemple chinois très connu dit, écoute ta femme mais ne la crois pas. Dans la civilisation hindoue, si la femme devait perdre son mari, elle devait mourir avec lui. Et pour cela, était pratiquée une tradition, si je peux me le permettre d'appeler sa tradition, je dirais une tradition barbare, la femme devait être brûlée à vif avec son mari. Il est dit que cette tradition-là a été pratiquée jusqu'au XVIIe siècle. À travers cette histoire, mes sœurs, on peut comprendre que la femme a toujours été considérée comme une faible créature méprisable. On a beaucoup parlé en mal de la femme. On la compare à beaucoup de mauvaises choses. On dit souvent que c'est elle la source du mal. Un exemple espagnol dit, prends garde à la femme perverse et ne te fie pas à la femme pieuse et honnête. Un exemple italien dit, le fouet est pour le cheval rapide et le cheval lent. Et le bâton, c'est pour la femme perverse et la femme pieuse. Voilà ma sœur, voilà l'opinion qu'on avait de la femme. Et parfois même de nos jours, on retrouve les mêmes remarques. Ma sœur, la femme n'occupait aucune importante place dans la société. Elle n'avait aucune valeur. Elle était considérée comme source du mal. Certains l'ont appelée la noire, le démon, et plein d'autres termes comme ces derniers. Elle était interdite de culture, car la femme devait rester ignorante et ne jamais comprendre. Il est même précisé que chez certaines civilisations, quand la femme avait ses menstrues, elle était interdite de manger dans le plat de la famille. On craignait son impureté. Certains l'isolaient dans une fente, lui donnaient du pain et de l'eau, et ça, jusqu'à la fin de sa période des menstrues. Et à la fin du 6e siècle, certains religieux se sont regroupés et ont tenu une séance pour but de déterminer si la femme est vraiment un être humain ou pas. Est-ce qu'elle possède une âme ou pas? Et si elle en possède une, est-ce que cette âme-là qu'elle possède, est-ce une âme humaine ou animale? Et si elle possède une âme humaine, l'âme de l'homme n'est-elle pas supérieure à l'âme de la femme? Voilà pour les choses pour lesquelles se sont regroupés ces religieux. Et enfin, leur conclusion fut que la femme était un être humain, mais elle n'avait été créée que pour la soumission de l'homme. En ce qui concerne la civilisation arabe, avant l'islam, la femme n'avait aucune importance. Elle était maîtrisée, interdite de tout droit. Et le calife, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a bien dit, والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. Il jura par Allah, il dit, nous étions des gens pendant la période pré-islamique qui ne donnaient aucun droit à la femme. La femme était interdite du droit à l'héritage. Et une parole connue chez les Arabes à l'époque anti-islamique qui disait: seul l'usérit, celui qui porte l'épée et le bouclier. Ce qui veut dire que la femme ne pouvait jamais les hériter. Il est même dit que la nourriture de l'homme était différenciée à celle de la femme. La femme qui perdait son mari devait s'enfermer dans une pièce pour une période d'une année. Tout ça pour le respect du mari mort. Zaynab, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: la femme qui avait perdu son mari devait habiter une pièce sombre et se vêtir de ses habits les plus moches. Elle devait ni se parfumer, ni se faire vêtre pour une période d'une année. Regardez à quel point la femme était rabaissée, à quel point la femme n'avait aucune valeur. Elle ne valait rien. Elle devait ni bien se vêtir, ni se parfumer, ni se faire vêtre. Pourquoi? Pour son mari qui avait perdu la vie. D'autre part, les Arabes craignaient la jeune fille. C'était une honte pour eux d'avoir une jeune fille. Peur de la honte et peur de la pauvreté, ils étaient menés à l'enterrer vivant. Et Allah fait allusion à cela dans un de ses passages du Coran, et il dit: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache les dents à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Et Allah dit dans notre verset: وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et quand on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché a-t-elle laissé tuer. Et on trouve dans la période pré-islamique, on trouve chez les Arabes des histoires terrifiantes, comme celle que nous raconte le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il dit: je faisais deux choses avant l'islam. L'une d'elles me fait pleurer aujourd'hui quand j'y pense. Et l'autre me fait rire. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui dans ce discours, c'est celle qui fait pleurer Omar. Il dit: un jour j'ai pris une de mes filles avec moi, et j'ai commencé à lui creuser un trou. Et elle nettoyait la terre qui se posait sur ma barre. Mais elle ne savait pas ce que je lui préparais. Et quand je pense à cette chose-là, je pleure. Et oui, il n'a pas eu pitié pour elle, il l'a enterrée vivante. Et l'imam Tirmidhi rapporte un hadith disant qu'un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasul Allah, ô prophète, inna kunna ahla jahiliya wa ibadati awtan, nous étions un peuple ignorant et adorateur d'idoles. Wa kunna naqtulu al-awlad, et on tuait nos enfants. Wa kanat indi binatun li, falamma ajabat, ay kaburat, wa kanat masruratan bi du'a'i idha da'awtuha. Et j'avais une fille, et quand elle a grandi, je l'ai appelée, et d'ailleurs elle se réjouissait quand je l'appelais. فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد. Et lorsque je l'ai appelé, elle m'a suivi et je l'ai emmené vers ma suite, pas loin de la maison. فأخذت بيدها فرديت بها في البئر. Je l'ai tiré de sa main et je l'ai jeté dans ce puits. وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه. Et les dernières paroles qu'elle prononçait étaient non père, non père. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le prophète se mit à pleurer. Et un homme qui était très embrassé se leva et dit: Tu as quitté le prophète. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit: كف فإنه يسأل عما أهم. Le prophète lui dit: Laisse-le. Il demande après une chose qui le préoccupe et la rend soucieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à cet homme de lui répéter son histoire. Et il lui répéta l'histoire une deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remit à pleurer jusqu'à que sa part se mouilla de ses larmes. Et il lui dit: Inna Allah qad wada'a 'ani al-jahiliyya ma 'amilu fastanif 'amalak. Allah a pardonné. Allah a pardonné ce que les gens faisaient avant l'islam. N'y pense pas et continue tes bonnes œuvres. Et un hadith dit: Al-Islam wa yajubbu ma qabla. L'islam est à se passer. Voilà ma sœur. Voilà comment la femme était maîtrisée. On lui donnait aucune valeur. Elle était là juste pour se soumettre à l'homme. Mais quand l'islam est apparu, les ténèbres qui régnaient sur la péninsule arabe ont été remplacées par la lumière. Cette injustice envers la femme a été retiré. Ce lourd fardeau qu'on faisait porter à la femme s'en est débarrassée. L'islam a délivré la femme de l'esclavagisme et de l'exploitation. Et je dis et le redis, il n'y a pas une seule religion qui en aurait protégé la femme comme l'a fait la religion de l'islam. Et oui, l'islam a reconnu que la femme était un membre important dans la société. Il a égalisé entre elle et l'homme dans les droits et les obligations. Allah dit dans un verset: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienveillance. Et quand le Coran s'adresse à l'homme, il s'adresse aussi à la femme. Allah dit: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une agréable vie et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et Allah dit: Inna al-muslimina wal-muslimat, les musulmans et les musulmanes, wal-mu'minina wal-mu'minat, les croyants et croyantes, wal-qanitina wal-qanitat, les obéissants et obéissants, wal-sadiqina wal-sadiqat, les loyaux et loyales, wal-sabirina wal-sabirat, les endurants et endurants, والخاشعين والخاشعات للكريان والكريان والمتصدقين والمتصدقات لدولار دولار زمان والصائمين والصائمين والصائمات للجنوء للجنوء والحافظين فروجهم والحافظات لجارديان لوخشاستي جارديان والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا بكثر souvent d'Allah et avocatrice, a'adallahu lahum mawfiratan wa ajran 'azima. Allah a préparé pour eux un pardon et une honneur récompense. Tellement que l'islam a élevé la femme, Allah a fait une sourate du Saint-Coran porte le nom d'une femme, la sourate Maryam. Et la sourate An-Nisa, les femmes, il a invoqué Asya, femme de Pharaon. C'était une femme pieuse et croyante. Malgré qu'elle vivait dans une ambiance d'angoisse et de terreur à cause de son mari, Pharaon, qui semait le désordre et l'injustice, malgré tout ça, Allah l'a élevé et il a immortalisé sa parole dans le Saint-Coran jusqu'au jour du jugement dernier. Il a accepté son invocation comme elle a dit « Rabbi binil indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawm al-zalimin » Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. Et l'islam ne s'est pas contenté juste de ça. Chers frères, l'islam ne s'est pas contenté juste de ces mérites-là qu'il a accordé à la femme. Mais il a fait plus que ça. Il a fait que la mère mérite auprès de ses enfants plus d'attention que n'en mérite le père. Et pour cela, le hadith suivant l'illustre très bien. Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande à un bon prophète quelle est la personne à qui je dois le plus de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ta mère ». Et ensuite ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ta mère ». Et ensuite dit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ta mère ». Et ensuite dit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ton père ». La femme, mes très chers sœurs, était à l'apogée de l'islam un docteur, une infirmière. Elle guérissait les malades. Elle était savante. On l'a consultée pour sa science. Et on a là un bel exemple, celui de Aïcha, mère des croyances, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'a bien, qui par le grand nombre de hadiths qu'elle a rapporté, a eu un rôle important en ce qui concerne la sauvegarde de la tradition prophétique. Donc l'islam a toujours regardé la femme comme source de bienfaits. Ma sœur, l'islam t'a donné des limites à respecter. Si tu respectes ces limites, tu gagneras. Et si tu franchis ces limites, tu pars à ta perte. Tu possèdes quelque chose de très cher. Cette chose-là, c'est la dignité et l'honneur. Si tu perds ton honneur et ta dignité, tu perds tout. Par contre, si tu préserves ton honneur et ta dignité, tu deviens un diamant précieux. Que personne ne peut toucher, sauf son propriétaire. Aucune main impure ne peut s'en approcher. Et jamais un cœur malade ne pourra te convoiter. Car dis-toi que celui qui a un cœur malade, ce qu'il cherche chez toi, c'est la chose la plus chère que tu puisses posséder. C'est pour ça, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi et ferme les portes qui pourraient t'emmener vers le mal. On n'invite jamais un voleur à nous voler. Réveille-toi, ma sœur, avant que tu ne le regrettes et qu'il soit trop tard. Pour pouvoir préserver ton honneur et ta dignité, une chose est demandée par Allah et son prophète. C'est le hijab. Le hijab est une obligation pour la femme quand elle atteint la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْمَحِيضُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُرَى مِنْ بَدَنِهَا إِلَّا هَذَا » Quand la femme atteint la puberté, elle ne doit pas s'arroucher de son corps que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un signe montrant vers son visage et ses mains. Le voile, ma sœur, est une obligation comme l'obligation de la prière, de l'aumône et le pèlerinage. Beaucoup de sœurs pensent que le hijab n'est pas obligatoire. S'appuyant sur les paroles telles que l'islam a cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité que Dieu et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. La prière, l'aumône, le pèlerinage et le ramadan. Ce qui veut dire que celui qui respecte les cinq piliers d'islam et qui fait après ça n'importe quoi, celui-là est-il un bon croyant? Non. Celui qui pratique les cinq piliers et tue et commet l'adultère et fait un des péchés parmi les grands péchés, celui-là est-il croyant? Non, jamais. Les cinq piliers de l'islam sont la base de l'islam, mais ils ne sont pas toute la religion. Il y a d'autres ordres qui ne sont pas parmi les cinq piliers, mais qui sont des ordres importants émanant d'Allah. Je réponds à tes sœurs et je leur dis, le hijab est un ordre d'Allah descendu du 7e ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit un peu avant dans le hadith, a dit, « إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْمَحِيضُ لا يحل أن يرى من بدنها إلا هذا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset coranique, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنْ. Au prophète dit à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile, c'est-à-dire de ramener sur elles leur grand voile. Le verset est clair et précis, il n'a pas besoin d'explication. Le hijab est à l'ordre d'Allah, et l'ordre d'Allah ne change pas. Mais on voit beaucoup de sœurs qui cherchent des prétextes, qui cherchent des excuses pour ne pas le porter. Comme celle qui prétend qu'en ayant le cœur pur, elle peut se passer du hijab. Je lui réponds avec ce que Allah dit. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا أَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Et si vous leur demandez, c'est-à-dire aux femmes, quelques objets, demandez-leur derrière un rideau. C'est-à-dire qu'elles soient voilées. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Ce verset-là, c'est plus pur pour votre cœur et leur cœur, prouve que le hijab est la pureté du cœur. Donc, pas d'excuse pour la sœur qui dit, c'est le cœur qui compte, le cœur doit être pur, et après ça, je peux faire ce que je veux. Aucune excuse pour cette sœur-là. Celle qui prétend qu'elle aime Allah et son prophète, et que cet amour-là peut la dispenser de porter hijab, et quand on entend parfois, ah, la religion c'est dans le cœur. Combien de fois? J'ai dû entendre, au moins plus de 1000 fois, cette parole l'a répétée. Ah, la religion c'est dans le cœur. Hein? Et moi j'ai le retour, je leur dis, ce qui est dans le cœur apparaît sur les membres. Celle qui prétend qu'avec ça, elle peut s'en passer des fidèles, je lui réponds avec ce qu'Allah a dit. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله dit au prophète, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment sur le prophète le suivre dans les actes et dans les paroles, dans tous les gestes. Et Allah dit dans un autre verset, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Celle qui prétend que le hijab est une œuvre trop dure pour la femme, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un de ses versets, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité et il ne vous veut pas la difficulté. Donc le hijab est une œuvre facile que toute femme peut supporter, car Allah ne veut ordonner à son serviteur ce qu'il n'est pas capable de faire. Allah dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ne pose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et celle qui prétend que plus personne ne porte le hijab, et qui dit, ah, le hijab est devenu banal, ou bien qui dit, ah, la fille d'Athènes ne porte le hijab, ou bien la fille d'Athènes n'a jamais porté le hijab, hein, telle que la fille du Hajj, ou la fille d'Athènes, une personne bien placée, on dirait-on, ou une personne qui représente la religion, et on trouve, par exemple, sa fille qui ne porte pas le hijab, hein, comme la Hajj, par exemple. Je lui réponds à cette fille, mais ce Hajj-là n'est pas l'exemple pour toi. Pour toi, l'exemple, le modèle que tu dois suivre, c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je réponds à cette sœur, si un tel va à ta tête, je suis assez intelligent, je ne la suis pas. Et celle qui dit, je ne porte pas le hijab, car je ne suis pas encore satisfaite, je ne suis pas encore convaincue. Je lui réponds, Allah a dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah ou son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et celle qui prétend que le hijab la gêne dans son travail, car elle est mal vue, ou pour des jeunes ou n'importe, je lui dis, ma sœur, la dignité de la femme est plus chère que tout. L'agrément d'Allah est plus cher que tout. Gagner le paradis est plus cher que tout. C'est pour ça, ma sœur, laisse les inspirations qui sont que des inspirations du Satan, qu'Allah nous maudisse, laisse les inspirations qui ne pourront jamais être un prétexte. Écoute, sont que des inspirations du Satan, qu'Allah nous maudisse, laisse les inspirations qui ne pourront jamais être un prétexte. Et couvre-toi de ton voile. Ma sœur, une chose qu'il faut savoir, quand les ennemis de cette religion ont connu la valeur du voile, la valeur de la femme volée dans cette société, ils ont déclaré une guerre contre ce voile. Ils ont prétendu que l'islam est une religion qui opprime, une religion de retardée, qui n'accepte pas la modernisation. Ma sœur, réveille-toi. On t'appelle avec des phrases telles que liberté de la femme, libérer la femme du voile, libérer la femme de sa dignité. Mais de quelle liberté parle-t-on? Est-ce une liberté de faire sa dignité et son honneur? Est-ce une liberté de dénuder la femme et de l'exposer public? Est-ce une liberté de devenir une marchandise? Est-ce que vous appelez cela de la liberté? Ils veulent la perte de la femme. Je n'appelle pas ça de la liberté, mais de la bourse. Ma sœur, réveille-toi et prends garde aux astuces qu'on utilise contre toi. Mais t'en fais pas, Allah a tout vu et il voit tout. Celui qui veut te mettre des bâtons dans les roues n'ira pas loin. Allah dit:
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. Ma sœur, ne prends pas comme modèle les femmes qui ne croient pas en Allah, ni en son messager, ni au jour du jugement dernier. N'oublie pas tes origines. Si tu veux ressembler à quelqu'un, ressemble à Khadija ibn Khuwaylid, ressemble à Saouda, ressemble à Aïcha, ressemble à Hafsa, à Zainab ibn Khuzayma, à Umm Salama, à Zainab ibn Jahsh, à Juwayriya, à Safiya, à Umm Habiba, à Maymuna, à Maria, radiallahu ta'ala anhun. Qu'Allah les agrée. Si tu veux ressembler à quelqu'un, ressemble à ces femmes-là. Ressemble à ces femmes qui sont les délicieuses femmes du paradis. Ma sœur, quelles que soient les richesses que la femme puisse posséder, quelle que soit la célébrité qu'elle puisse avoir, quelle que soit la beauté qu'elle puisse avoir, la femme ne trouvera jamais le bonheur que dans la vie de mariage. La vie familiale sereine, paisible, heureuse et sans nuage. Voilà où est placé le bonheur de la femme. C'est pour cela, ma sœur, ne refuse jamais le mariage quand tu as une occasion. Et Allah dit: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, de l'affection et de la bonté. Et pour finir ce discours, je vais vous raconter l'histoire d'une grande star connue, Marilyn Monroe. Mais vous me direz, quel est le rapport de Marilyn Monroe avec ce discours? Vous allez comprendre. La revue numéro 3, Havaratul Islam, Civilisation de l'Islam, publie à la page 331 un article disant que l'enquêteur qui étudiait le cas de suicide de Marilyn Monroe a découvert une lettre conservée dans un coffre déposé à la Manhattan Bank de New York. Cette lettre nous éclaircit sur le suicide de Marilyn Monroe. Il était inscrit sur la lettre: ne pas ouvrir avant mon décès. L'enquêteur ouvra la lettre et trouva qu'elle était écrite de ses propres mains, c'est-à-dire écrite des propres mains de Marilyn Monroe. La lettre était destinée à une jeune fille qui demandait des conseils à Marilyn concernant sa future carrière d'actrice. C'est-à-dire que cette jeune fille avait décidé de commencer dans le cinéma et demandait des conseils à Marilyn Monroe. Marilyn conseille dans cette lettre à cette jeune fille, à cette jeune adolescente, et précise que son conseil est adressé à toute fille qui prépare de devenir actrice. Elle dit, et ce n'est que des extraits de ce qu'elle dit, elle dit: fais attention au succès et méfie-toi des sous-flatteurs, des projecteurs. Et ensuite elle dit: je suis la plus malheureuse des femmes sur terre. Je n'ai jamais pu être mère. Je suis une femme qui préfère de loin la vie de famille, la vie de maison. Le vrai bonheur de la femme se trouve dans la famille honorée et pure. Et non seulement cette vie de famille honorée et pure symbolise le bonheur de la femme, et bien plus encore le bonheur de toute l'humanité. Et elle dit à la fin dans sa lettre, en conclusion, j'ai subi l'injustice de tous les genres. Et le cinéma fait de la femme une marchandise à bas prix et futile, quel que soit le niveau de célébrité trompeuse et de succès que la femme a pu atteindre. Je conseille aux jeunes adolescents, dit-elle, d'abandonner l'idée du cinéma, ou sinon ils auront la même tragédie que la mienne. Et sur la même page, un autre article, on pose la question à un grand acteur de films de western, Hyde O'Brien, sur le suicide de Marilyn Monroe. Il dit, j'étais à Londres quand j'ai appris son suicide. Et d'ailleurs, cela m'a beaucoup choqué. Il dit ensuite, c'est Hollywood qui est à la cause de sa mort. Il dit que Hollywood a beaucoup méprisé Marilyn Monroe après s'être servi d'elle. Et ça, c'est le travail de beaucoup de professionnels, dit-il, à Hollywood. Ils savent comment et quand arnaquer les jeunes filles. Ma sœur, voilà la fin du discours. Et maintenant, tu as sûrement compris pourquoi j'ai invoqué le cas de suicide de Marilyn Monroe. La dernière parole que j'ai envie de te dire, c'est réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi. Réveille-toi tant que les portes du repentir sont encore ouvertes. Et Allah t'appelle. Et il a rendu sa main à la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour, et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Allah dit dans un verset, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Ô les serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et oui, celui le pardonneur, le très miséricordieux. وختاما نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يوفقنا جميعا لكل خير وأن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وأن يصلح نساء المسلمين عموما ونساءنا خاصة اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم اصلح شباب الإسلام والمسلمين من بنات وبنين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين آمين والحمد لله رب العالمين